Bonjour, bonjour. Merci à Loïc qui assure la part technique de l'émission, qui a été préparée aussi par Lionel. Et merci à tous les auditeurs de cette émission mensuelle du Grémos sur les ondes de Radio Dio. Celle-ci est consacrée aujourd'hui pour la deuxième fois aux quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne qui se sont tenues les 20 et 21 janvier 2017 sur le thème que je vous rappelle, travail ouvrière et ouvrier au temps de la Grande Guerre, le bassin stéphanois de 1910 à 1925. Je vous rappelle que dans la précédente émission, à partir des quatre interventions de la première demi-journée, nous avions, avec Jean Lorsin, brossé un tableau de l'économie stéphanoise à la veille et au début de la guerre, en partant de la situation de certaines entreprises, telles l'entreprise Mimar, et de certaines branches. Aujourd'hui, c'est sur deux interventions de la deuxième demi-journée que nous allons nous pencher, et ces deux interventions vont nous permettre d'entrer dans le contexte du conflit, dans les débats qui ont agité les milieux syndicaux et dans la vie concrète des militants ouvriers de cette période. Il s'agit d'une part de la contribution de Jean-Paul Martin sur Laurent Moulin et le parcours singulier d'un ouvrier chambonnaire du syndicalisme révolutionnaire à l'Algérie, et d'autre part sur la contribution de Daniel Durand, les grèves de 1918 dans la Loire, d'une histoire singulière aux questionnements généraux. Alors, concernant la première, Jean-Paul Martin a rencontré Laurent Moulin pendant l'été 1970. Ça nous ramène déjà pas mal en arrière. À cette époque, Jean-Paul était étudiant en histoire et préparait son mémoire de maîtrise sur le syndicalisme révolutionnaire chez les métallurgistes de Londen. Il avait alors face à lui un acteur important des grandes luttes ouvrières menées au Champ Fougerolles dans les années 1910-1911. Un acteur qui était à la fin de sa vie, blessé, fatigué, mais un acteur qui avait rédigé quelque temps auparavant un cahier autobiographique manuscrit sur lequel nous reviendrons. Il s'agit donc d'un témoin important pour le sujet que Jean-Paul Martin était en train de traiter et pour notre thème de ces quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière. Alors, cette intervention, Jean-Paul n'a pas pu la faire puisqu'il était lui-même handicapé et n'a pas pu se déplacer jusqu'à Saint-Étienne. Elle va donc être ici lue par Madeleine de Barba, qui va d'abord nous présenter le début du parcours de Laurent Moulin.
Laurent Moulin est né le 27 juin 1885 à Fraisse, mais il a vécu toute son enfance et sa jeunesse au Chambon-Feugerolles. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq, comptant trois sœurs et un frère décédé assez jeune. Son père, qui était forgeron, travaillait dans un atelier de la Compagnie des Mines au Puy d'Olomieu à Roche-la-Molière. Il aspirait lui-même à devenir forgeron, mais devra y renoncer pour des raisons de santé. Il fréquente l'école communale du Chambon, dont il gardera toute sa vie un excellent souvenir. C'est là qu'il acquiert ou conforte un goût de lire et de connaître qui ne le quittera jamais et qui fera de lui un modèle d'autodidacte. À l'âge de 11 ans, il obtient le certificat d'études. Mais il quitte l'école à 13 ans et est embauché dans une fabrique de boulons de la localité, l'entreprise Pal-Bertrand, où il travaillera 3 années. Il devait connaître 19 entreprises différentes avant son départ pour l'Algérie. Il est alors sans métier bien défini, c'est-à-dire qu'il appartient à la catégorie des ouvriers girovagues, selon la définition d'Yves Lequin. Connaissant de nombreuses périodes de chômage, tant en raison de l'insécurité de l'emploi chez les ouvriers non qualifiés que de la répression patronale qui lui vaudra d'être renvoyé à 3 ou 4 reprises. Ses engagements militants sont en effet précoces et c'est la figure paternelle qui sert ici de référence fondatrice. Je cite « Mon père eut un grand mérite à mes yeux. Il avait compris la nécessité de soulever la chape de plomb qui écrasait les travailleurs. » C'est certainement son exemple qui fit tomber mes œillères. Ce père était socialiste. Il avait contribué à la fondation du syndicat de l'outillage du Chambon-Feugerolles. Il était administrateur d'une coopérative de consommation, la Solidarité, qui s'appellera ensuite la Revanche du prolétariat.
Bien, concernant ce premier point sur le parcours, la jeunesse, l'enfance et la jeunesse de Laurent Moulin, on pourra déjà remarquer qu'il s'inscrit totalement dans ce monde des familles ouvrières stéphanoises, un monde qui s'auto-reproduit puisque Le travail et l'horizon d'attente générale, à l'âge de 11 ans, on va déjà travailler. Donc on est dans une période où les familles ouvrières sont aussi des familles nombreuses, mais où la mortalité infantile peut être assez ravageuse. Enfin, donc fils de forgeron, Laurent Moulin va devenir lui-même un ouvrier métallurgiste. Deuxième remarque, son parcours professionnel nous montre ce que vivent les ouvriers de la région stéphanoise et en particulier ceux de l'agglomération du Chambon-Feugerolles. Donc ces métallurgistes qui vont entrer en activité syndicale très dure à partir du début du XXe siècle. Donc ce sont des petites entreprises où le temps de travail est très important, mais où la durée de l'emploi peut être très brève. 19 entreprises en une vingtaine d'années, on voit que le turnover, comme on dirait aujourd'hui, est tout à fait important. Enfin, dernier point, c'est évidemment une classe ouvrière dans laquelle l'engagement est très important. L'engagement par notamment la figure du père, qui est déjà lui-même syndicaliste, même créateur du syndicat, et qui aussi va se passer du syndicalisme ou associer à son syndicalisme. C'est une des questions qui reviendra dans la vie de Laurent Moulin. Donc associer à son syndicalisme aussi un engagement politique à l'intérieur d'une des nombreuses tendances qui participe à ce qu'on appelle le mouvement socialiste. Il n'y a pas encore à l'époque un seul parti socialiste. Donc un engagement qui le conduit, qui l'amène au début du XXe siècle. On va voir comment se traduit maintenant concrètement cet engagement de Laurent Moulin.
La solidarité de classe, Laurent Moulin l'éprouve pour la première fois lors d'une grève à l'usine Paul-Bertrand pour obtenir le renvoi d'un contremaître. Âgé de 16 ans en 1901, il adhère au syndicat des métallurgistes qui vient d'opérer la fusion entre trois petits syndicats locaux. À la même époque, il lit un petit journal éphémère, Le Drapeau Rouge, organe de la jeunesse socialiste révolutionnaire. En 1904, il s'intéresse à l'unification du mouvement socialiste et va chercher à pied l'Humanité à Firminy pour lire le compte-rendu du congrès d'Amsterdam. Un an après l'unité socialiste de 1905, alors qu'il a atteint ses 21 ans, il peut enfin adhérer à la section du Chambon de la SFIO, qui comprend alors une centaine de membres. Il fait également partie du groupe de la Libre Pensée, même s'il déplore d'y avoir rencontré, je cite, bien peu de penseurs libres et surtout des mangeurs de curés. Il déploie au sein de la section socialiste une grande activité et, en dépit de son jeune âge, est régulièrement choisi par ses camarades pour les représenter au congrès départementaux. C'est alors qu'il entend Jaurès pour la première fois à Saint-Étienne, lors d'un meeting, probablement en février 1907. Il dit: pendant tout le temps que dura son discours, je restais suspendu aux lèvres du grand tribun, incomparable annonciateur des temps nouveaux. Si je n'avais eu conscience de l'iniquité qui courbait les hommes, elle m'eût été révélée ce jour-là. De tous les orateurs que j'ai entendus, Jean Jaurès fut de ceux qui me laissèrent l'impression la plus profonde. Il entendra Jaurès une seconde fois en avril 1909, ainsi qu'Édouard Vaillant, lors d'une réunion publique précédant le congrès national de la SFIO qui a lieu cette année-là à Saint-Étienne. Il voue alors à Jaurès un véritable culte qui demeurera intangible, même après avoir quitté le Parti socialiste. Son militantisme socialiste ne dure en effet que 3 ans. Il quitte le parti en fin d'année 1909, sous l'influence d'un militant libertaire qui allait devenir un meneur d'hommes pendant les grèves de la métallurgie chambonnaire, Jean-Marie Thire. Laurent Moulin ne décrit cependant pas avec une grande précision cette évolution idéologique. Il se contente d'évoquer les longues discussions qu'il avait avec Thire et qui le laissaient souvent perplexe. Lentement, je subissais l'influence de ce camarade qui me démontrait jour après jour le peu d'intérêt qu'avait la politique pour les exploités que nous étions. La logique finit par l'emporter, je démissionnais du Parti socialiste. Mais la décision lui est d'autant plus pénible que le jour où il l'annonce à ses camarades, ceux-ci lui demandent de rester et le désignent une nouvelle fois pour les représenter au congrès départemental. Je remercie avec émotion mes camarades de leur confiance et c'est le cœur un peu gros que je leur serrai les mains et les quittai. La politique n'était pas mon fait.
Nous montre ce qu'un militant particulièrement conscient peut avoir d'abord de souci de se former par une lecture importante, le drapeau rouge, l'humanité, par il est aussi membre de différentes aspects de ce qu'on appellera le mouvement ouvrier, y compris la libre pensée, et on aura remarqué cette pique tout à fait significative quand il nous dit qu'il à la libre pensée, il déplore d'avoir rencontré bien peu de penseurs libres. Et il nous montre aussi le rôle des leaders, l'influence qu'a exercé sur lui aussi bien un leader national comme Jaurès qu'un leader local comme Jean-Marie Thire. Et on peut remarquer aussi que, d'une certaine façon, Laurent Moulin devient lui aussi un leader puisque ses camarades comptent sur lui pour l'engagement. Nous allons faire, avant d'écouter la suite, une petite pause musicale. Donc je vous rappelle que vous écoutez l'émission mensuelle du Grémos qui revient aujourd'hui sur les quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne qui se sont tenues les 20 et 21 janvier 2017 à la Bourse du Travail de Saint-Étienne sur le thème « Travail, ouvrière et ouvrier au temps de la Grande Guerre ». Nous sommes aujourd'hui, grâce à Jean-Paul Martin et à la voix de Madeleine de Barba, en train de retracer le parcours de Laurent Moulin, métallurgiste, militant du Chambon, figure importante du monde syndicaliste stéphanois, au temps de la Grande Guerre, c'est-à-dire dans les 20 premières années du XXe siècle.
Après son départ de la SFIO, Moulin fait partie d'un petit groupe libertaire local né dans le sillage de Jean-Marie Thire et que fréquentent également deux militants locaux, plus jeunes, ayant atteint plus tard une certaine célébrité, Pétrus Faure et Benoît Frachon. C'est là qu'il commence à acquérir sa culture libertaire à la lecture de grands auteurs comme Kropotkin, Élisée Reclus et surtout Sébastien Faure. Une culture qui mêle étroitement anticléricalisme, antimilitarisme, anticapitalisme, où les souvenirs de la Commune se superposent à la mémoire de toutes les luttes populaires. Il lit également assidûment La Voix ouvrière de Pierre Monat, auquel il est abonné de son premier numéro en 1909 jusqu'à la disparition du journal en 1914, et Les Temps nouveaux de Jean Grave, ainsi que le Libertaire de Pierre Martin, même si ce journal, me dira-t-il, l'intéressait un peu moins que les précédents. Ce qui ne l'empêche pas de rester fidèle à l'humanité, dont il savoure à la fois l'éditorial de Jaurès, toujours empreint d'humanisme, dit-il, et les tribunes des dirigeants syndicaux de la CGT, auxquels Jaurès donne volontiers la parole. C'est en effet au syndicalisme que Laurent Moulin réserve l'essentiel de son militantisme pendant la période où il réside et travaille au Chambon-Feugerolles. Le syndicalisme révolutionnaire connaît alors une forme d'apogée, peu après l'adoption de la charte d'Amiens. Le syndicat des métallurgistes du Chambon se retrouve pleinement sur cette orientation. Mais dans sa pratique, il se veut un syndicalisme de masse, tout en faisant sa part aux minorités agissantes. Pendant toute l'année 1909, Laurent Moulin est pour la première fois secrétaire à titre bénévole du syndicat et il organise l'inauguration de la Maison du Peuple, édifiée dans le quartier de la Vernicherie et avec le seul argent des ouvriers. Son rôle personnel dans les deux longs conflits, plus de 5 mois chacun, qui éclatent en 1910 et 1911 dans les boulonneries de la localité, n'est cependant pas identique. Pendant la grève de 1910, alors qu'il travaille à Saint-Étienne ou connaît des périodes de chômage, Il n'a pas de responsabilité syndicale sur place, même si, habitant toujours chez ses parents au Chambon, il est témoin de beaucoup d'événements survenus pendant le conflit ou en marge de celui-ci, notamment l'incendie de la mairie du Chambon, pour lequel il sera un bref moment inquiété. En revanche, au début de 1911, il a accepté de redevenir secrétaire, cette fois-ci appointé, du syndicat pour une durée de 2 ans. Il renonce ainsi à un emploi mieux rémunéré à Saint-Étienne. C'est donc lui qui aura la lourde charge d'accompagner la grève qui se termine en août par une retentissante défaite du mouvement ouvrier. Il abandonne alors, au bout de 8 mois, son mandat de secrétaire. Je ne voulais pas donner l'impression à des camarades victimes de la répression patronale que je continuais à percevoir ma mensualité, alors qu'eux-mêmes étaient à la recherche du pain quotidien. Mis en cause dans les attentats à la dynamite contre des usines de boulons qui avaient eu lieu au cours de la grève, une affaire qui lui confère momentanément une célébrité involontaire et une mise à l'index par le patronat local, il doit s'exiler quelques mois en région parisienne où il est hébergé à Alfortville par son ami Laurent Torcieux, un syndicaliste libertaire comme lui, futur secrétaire en 1919 jusqu'en 1921 de la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Tout un réseau de solidarité fonctionne entre des militants de Londaine et ceux de la région parisienne à cette époque, et il n'est pas le seul à en bénéficier.
Laurent Moulin était donc ce que l'on appelait un syndicaliste révolutionnaire. Syndicalisme qui insiste beaucoup sur l'autonomie, et notamment l'autonomie par rapport aux politiques. Et c'est beaucoup ce qui différencie le syndicalisme français de cette époque du syndicalisme allemand ou du syndicalisme britannique. Autonomie et indépendance par rapport aux politiques, et même le syndicalisme révolutionnaire se targue de projeter d'être l'acteur décisif de la société future, celle où disparaîtra, comme il était dit à l'époque, l'esclavage salarial. Ce syndicalisme, comme nous montre aussi le texte qui vient d'être lu, n'est pas exempt d'une certaine tentation de la violence qui va contribuer d'ailleurs à son dénigrement par ses adversaires. Notons aussi qu'il refuse le mandat éternel et qu'un syndicaliste secrétaire comme Laurent Moulin ne reste jamais très longtemps à son poste et retourne à la production. Bien sûr, ces syndicalistes sont soumis à une véritable répression, en tout cas une grave surveillance de la part de la police et de la préfecture, et des renseignements qui sont renvoyés régulièrement au ministère de l'Intérieur. Du coup, Laurent Moulin fait partie de ces gens qui sont inscrits sur une sorte de liste rouge qui fait que les patrons ne les embauchent pas ou ne les embauchent plus. Il est donc contraint de partir à Paris et revient dans la Loire au printemps 1912, où il reste à Saint-Étienne jusqu'à son départ en Algérie 7 ans plus tard. Ouvrier qualifié, devenu tourneur, il continue d'être en lien avec les CGT, avec le syndicat des métaux et avec le petit monde libertaire stéphanois qui défraye la chronique de l'immédiate avant-guerre sous des appellations diverses. C'est la jeunesse socialiste, c'est le groupe germinal, c'est le foyer populaire. Il est aussi, comme beaucoup de ses camarades, un antimilitariste. D'ailleurs, depuis sa jeunesse, il s'engage en 1913 dans la campagne contre la loi de 3 ans. Après l'assassinat de Jaurès, vécu comme un véritable drame, il voit le ralliement de la classe ouvrière à la logique de la défense nationale et c'est pour lui une terrible désillusion. Il est mobilisé dans son atelier pendant tout le conflit et il vit sa situation comme un privilège qui lui impose, sorte d'obligation morale, de faire tout dans son humble sphère pour lutter encore et toujours contre la guerre. Cette action revêt, selon les moments, des formes diverses. C'est donc maintenant dans le contexte de la guerre que nous allons le retrouver, que nous allons retrouver ce parcours avec le texte qui est lu ici par Madeleine de Barba.
Laurent Moulin est également au centre de la diffusion d'une propagande pacifiste d'inspiration zimmerwaldienne dans la région stéphanoise. Il est en contact avec Merheim, donc secrétaire de la Fédération des métallurgistes, après la conférence de Zimmerwald en septembre 1915, et participe à Décines dans l'Isère à une réunion de militants triés sur le volet, où Merheim fait part des résolutions adoptées. Resté proche de lui, il diffuse des brochures pacifistes transmises par ses soins, ou après la conférence de Kiental, celle éditée par le Comité pour la reprise des relations internationales. Il dit « Je puis dire que toute cette prose subversive passa par mes mains. Je cachai le tout dans une soupente de l'atelier où j'étais occupé. » Enfin, cette action s'exerce aussi par la parole au cours de diverses manifestations organisées par le syndicat des métaux de la Loire ou dans son sillage au cours de l'hiver 1917-1918. Il intervient à Firminy lors d'une matinée récréative en faveur de l'orphelinat d'Épone, en Seine-et-Oise, dirigé par Madeleine Vernet. Et un autre jour, peut-être le 2 février 1918, il serait également parvenu avec son ami Samuel Rousset à entraîner une manifestation corporative entre la Bourse du Travail de Saint-Étienne et la préfecture au champ de l'International pour réclamer la fin de la guerre. En voici le récit. Il était bien 11 heures du soir. La dite manifestation eut un succès considérable. Ce n'était que cri contre la guerre et chant de l'International. Réveillés par ce bruit insolite, les habitants de la grande artère ouvraient leurs fenêtres, tout ébahis qu'ils étaient par le spectacle de ce sursaut populaire. Dès que nous fûmes arrivés vers la préfecture, nous lançâmes avec force le mot d'ordre. « Dispersez-vous, assez pour aujourd'hui, n'attendez pas la police. » Nous fûmes entendus et il en fut ainsi fait. Tous ses camarades étaient mobilisés en usine et point n'était besoin de les exposer à une arrestation qui équivalait à un retour à l'enfer, à un retour au casse-pipe. Quant à la grande grève de mai 1918, elle est évoquée dans l'autobiographie, mais avec une brièveté qui surprend un peu. Laurent Moulin déclare participer à l'impression de milliers de papillons portant des imprécations contre la guerre. Il mentionne aussi l'arrestation des membres des comités de grève qu'il connaît personnellement, parmi la cinquantaine qui furent envoyés à la prison militaire de Clermont-Ferrand. Philippe Goy, Julien Martin, Eugène Soulier du livre. Mais il ne cite pas le nom du principal animateur de la grève dans le bassin stéphanois, Clovis Andrieux. Et surtout, il réduit l'objectif du mouvement à l'ouverture de pourparlers de paix, sans évoquer le soutien à la révolution russe, dont il ne dit pas un mot. Cette lacune, ou cet oubli, entre guillemets, me semble un aspect révélateur de sa position, car parallèlement, il ne paraît pas suivre non plus l'évolution déjà entamée par Merheim et ne donne aucun signe de ralliement à la majorité réformiste de la CGT. Il mentionne en effet, peu après la fin de cette grève, avoir bondi à la tribune d'un meeting où Jouot s'était fait remplacer par un secrétaire adjoint de la CGT et avoir réussi à retourner l'auditoire contre l'orateur. Enfin, la dernière prise de position dont il fasse état se situe dans les semaines qui suivent l'armistice du 11 novembre 1918. Il s'agit d'un meeting de la section stéphanoise de la SFIO en soutien aux 14 points de Wilson, au cours duquel il croit bon d'intervenir pour se démarquer du panégyrique de Wilson, auteur des poursuites judiciaires contre les syndicalistes américains de l'IWW, ou pour les puristes, l'IWW, et qui avait fait emprisonner Debs, le candidat socialiste à la présidence des États-Unis, en raison de son hostilité à la guerre. Voilà ce qu'il dit. « Les socialistes qui formaient le bureau étaient bien quelque peu gênés par mon intervention, mais tout se passa correctement. »
Ainsi voyons-nous comment reprend, après le moment qu'a été l'union sacrée, qui a suspendu toute tendance à la contestation ou toute opposition à la guerre, comment cette action syndicale reprend peu à peu, d'abord sur le thème justement de la guerre, à travers l'information, la circulation de l'information sur ce qu'ont été les grandes conférences pacifistes tenues en Suisse, pour des raisons qu'on imagine facilement, la première à Zimmerwald en 1915 et la seconde à Kiental en 1916. Conférence auxquelles participèrent aussi des noms plus tard bien connus comme ceux de Lénine ou de Léon Trotsky. Le pacifisme va ensuite dériver lorsque la guerre prend un caractère de plus en plus pénible pour toute la population et aussi pour les soldats, bien sûr. Le pacifisme va être dépassé par un mouvement de plus en plus revendicatif dans lequel la Loire va jouer un rôle très important entre la fin 1917 et le mois de mai 1918. Le parcours de Laurent Moulin est donc pour nous un exemple de ce que ces syndicalistes révolutionnaires sont devenus pendant le conflit, quelque chose que pointe Jean-Paul Martin de très important, quelque chose qu'il a signalé, c'est-à-dire que contrairement à un certain nombre de ses camarades, Laurent Moulin va rester assez réticent par rapport à ce qui se passe en Russie. On a donc ici un moment clé dans l'histoire du syndicalisme et dans l'histoire du mouvement ouvrier national et international, le moment où ce courant va se partager entre ceux qui suivront le modèle soviétique et ceux qui refuseront de le suivre. Alors après la fin de la guerre, peut-être la conséquence de cela. Fin mai 1919, Laurent Moulin décide brusquement de tourner la page pour commencer une nouvelle vie à Alger. Il y vit encore la condition ouvrière, travaillant dans une usine d'allumettes. Refusant désormais de s'engager dans une organisation, peut-être faut-il voir là la méfiance qu'il éprouve vis-à-vis du rôle croissant des communistes dans les syndicats, Laurent Moulin demeure pourtant fidèle aux leçons de sa jeunesse, son idéal libertaire évoluant désormais vers une éthique, une morale qui lui sert de guide pour penser son rapport à lui-même et aux autres. Ainsi est-il toujours fidèle à la valeur de solidarité, qui prend une dimension nouvelle dans la situation coloniale où il s'est transposé. Il y a toujours chez lui une volonté de s'instruire et de se rendre compte par lui-même en refusant de se laisser dicter sa conduite par autrui, une sorte d'application concrète du ni Dieu ni maître. Il y a enfin une morale du refus de parvenir. Il restera jusqu'à la fin de sa vie un ouvrier fidèle à sa classe. Laurent Moulin a laissé un texte autobiographique, document précieux, qu'il a confié en 1972 à Jean-Paul Martin et dont ce dernier prépare l'édition et la publication dans le cadre de la nouvelle collection Mémoire du monde ouvrier stéphanois que lance le Grémos avec la société Art Graphique. Collection dont le premier volume écrit par Maurice Bedouin sur la grève de 1948, Une histoire en partage, sera présenté demain soir, vendredi 16 juin 2017 à 19h à la librairie L'une et l'autre. Nous allons maintenant étudier, après une seconde pause musicale, qui va nous donner l'occasion d'écouter une chanson qui est extrêmement importante, la chanson de Crown. Nous allons ensuite parler de l'intervention de Daniel Durand.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre l'être. Notre place est si utile que sans nous on prend la pluie. mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussi long. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons entre elles. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur retour. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir les grands boulevards, tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, très mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufillons vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Et si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre
peau. Ce compte pognon, c'est pour eux que nous allons au combat, et c'est maintenant à eux de faire la guerre. C'est cette chanson de Craonne dont il faut le rappeler, non seulement qu'elle a été interdite dans les tranchées, mais qu'elle suscite encore des polémiques, comme on l'a vu récemment pour les commémorations du centenaire de la guerre. Cette chanson de Craonne nous projette tout à fait dans le contexte de l'intervention que va faire Daniel Durand. Cette intervention intitulée « Grève de mai 1918 dans la Loire, d'une histoire singulière aux questionnements généraux ». Daniel Durand, président du CEDMO 42, nous a plongé dans un moment de la vie de 6 autres ouvriers, compagnons de combat de Laurent Moulin, d'une certaine façon, même si sans doute ils ne l'ont pas croisé directement, qui se retrouvèrent au cœur d'événements d'importance nationale, ce que l'on a appelé le mai pacifiste de 1918. Alors, nous aurons le temps aujourd'hui seulement de traiter de deux cas, mais ce qui est intéressant surtout, c'est cette démarche qu'a suivie Daniel Durand. Il nous rappelle au début de son intervention que dans la mémoire collective de la région, l'histoire de ce mai pacifiste en 1918 à Firminy est évoquée sous la forme d'une saga épique résumée souvent de la façon suivante. Je cite le progrès de mai 2014. Lors de la grève générale du 1er mai 1918, l'administration préfectorale procéda à l'arrestation de 6 ouvriers fondeurs des aciéries et forges de Firminy. Ceux-ci durent être déférés devant le conseil de guerre, mais devant la grève totale immédiatement déclenchée chez Verdier et Holzer, le gouvernement Clémenceau fait marche arrière. Marche arrière, rien que cela. Ce qu'il y a de particulièrement original dans ce que nous a proposé Daniel Durand, c'est la méthode qu'il a suivie. Partant de la mémoire familiale, en effet, l'un des inculpés, Ferdinand Marais, était le grand-père maternel de son épouse, et aussi de la mémoire locale, une photo des 6 fondeurs menacés d'être envoyés devant le conseil de guerre qui lui a été transmise par la Société d'histoire de Firminy. Il a entrepris de retracer le parcours de ces ouvriers brutalement projetés au cœur de l'histoire, au point d'avoir peut-être contraint le gouvernement Clémenceau à faire marche arrière. Il commence par la recherche des circonstances de la grève.
Un mot d'ordre de grève générale pour le 1er mai 1918 est lancé dans la métallurgie du bassin stéphanois. Donc, ça a été dit ce matin, il faut rappeler que la métallurgie travaillait essentiellement pour la guerre et que près de la moitié des ouvriers étaient des soldats mobilisés et requis sur place. Donc la grève était théoriquement un abandon de poste en temps de guerre et relevé évidemment du conseil de guerre. Le 1er mai 1918, la grève est complète aux établissements Holzer à Unieux. Les ouvriers vont accepter de récupérer cette journée perdue le dimanche suivant. Par contre, elle est un peu plus partielle aux aciéries et forges de Firminy, aux établissements Verdier. Globalement, dans la Loire, disons que la grève a un succès assez important, puisque le secrétaire du DCGT, Charles Flageolet, annonce 30 000 grévistes quelques jours après, dont sur le département. Le travail reprend le 2 mai partout, mais on apprend que 11 licenciements sont annoncés aux aciéries et forges de Firminy, aux établissements Verdier, que 6 de ces 11 ouvriers sur les 11 doivent être envoyés à leur régiment, puisqu'ils sont mobilisés au puits, au 86e RI, à partir du 9 mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier récit des événements est fourni, disons que au cours d'une réunion syndicale publique qui rassemble 1200 personnes le 8 mai à la Bourse du Travail de Firminy, par la bouche donc du militant syndical de l'époque, dont le nom a déjà été évoqué, Clovis Andrieux. Alors, je cite là le rapport du commissaire central. Il y a eu deux rapports de fait, un par un militaire et l'autre par le commissaire central. Il rapporte donc lors de la journée du 1er mai à l'usine Verdier, le poste de nuit au four Martin, à 11 heures du soir dans la nuit du 30 avril au 1er mai, avertit le contremaître et le chef d'atelier qu'il ne pourrait pas charger la dernière coulée, parce que le poste de jour, le lendemain, ne viendrait pas. Le contremaître ne voulut rien entendre et il obligea les hommes à charger la dernière coulée. Puis, quand vers 6 heures du matin, les hommes de nuit s'en allèrent, ils ont laissé évidemment la coulée à effectuer. Le contremaître et le chef de service savaient très bien, dit Andrieux, que le comité de grève délivrait des laissez-passer. S'ils en avaient demandé, la coulée aurait pu être lancée. Donc, j'accuse, dit Andrieux, le contremaître, le chef de service et le directeur, M. Dumuy, d'avoir fait du sabotage. Et il poursuit en disant « Nos camarades avaient reçu l'ordre hier au soir de partir pour rejoindre leur corps, le 86e RI au Puy, mais ils ne partiront que demain. Nous avons l'engagement du colonel Leblon, qui était donc le délégué du ministère de l'Armement, que nos camarades seraient mis à la disposition du ministre de l'Armement, mais non du ministre de la Guerre. Pendant que l'enquête se fera, nos camarades resteront au puits à disposition du ministre de l'Armement, mais si par malheur on les mettait à la disposition du ministre de la Guerre, de suite, comme un seul homme, nous cesserions le travail. Nous avons accordé un délai de 8 jours, mais si dans 8 jours nos camarades ne nous sont pas rendus, il y aura la grève générale dans tout le bassin de la Loire. Alors, Quand on lit les différents PV et archives, une chose saute aux yeux, c'est que les autorités militaires sont dans l'embarras devant l'attitude de la direction, et parce qu'en fait ils craignent que cette affaire de ces 6 grévistes renvoyés dans leur corps et peut-être demain au front n'enflamme la situation sociale de Londen, qu'ils décrivaient déjà comme très tendue. Et le ministre de l'Intérieur envoie un rapport à un commissaire spécial, donc le commissaire Ouday, pour mener une enquête précise, pour évaluer la situation. Et celui-ci va faire un premier rapport téléphonique dès le 12 pour dire, c'est alors que, prenant comme prétexte le chômage du 1er mai, le directeur des aciéries a pris sur lui de renvoyer, sans même consulter le colonel Leblon, délégué du ministre de l'Armement, 6 ouvriers qu'il considérait comme mauvais éléments, ce qui ne ressort nullement de leur dossier. Et il explique ce qui est assez surprenant, c'est que saisissant, le colonel Leblon protesta contre ces mesures étrangères à l'incident visé, et qu'aucun fait précis ne semblait justifié, il donna ordre au directeur de l'usine, qui était aussi des militaires, des capitaines mobilisés, de reprendre les ouvriers. Les directeurs refusent. Le colonel Leblanc s'adresse alors au ministre de l'Armement, qui est donc M. Loucheur, une note demandant des instructions, et Loucheur répondit, je recite, à la question de réintégration posée, oui, ces ouvriers doivent être réintégrés. Nouvel ordre du colonel Leblanc, nouveau refus des directeurs, qui menacent de demander leur renvoi au front s'ils sont obligés de s'incliner. Et M. Néré, maire de Saint-Étienne, qui est président du conseil d'administration des aciéries et forges de Firminy, ajoute, si on nous force à les reprendre, nous fermerons. Voilà. Alors, le commissaire spécial conclut, à la suite des renseignements indiscutables qui m'ont été fournis, qui m'ont permis de me faire une opinion nette et juste, je me permets, en complet accord avec le préfet de la Loire, de vous prier de bien vouloir demander au ministre de l'Armement de prescrire télégraphiquement l'exécution de son ordre s'il le maintient. Donc on a, de manière claire, donc un incident qui est en fait un incident interne à la direction de chez Verdier. Alors on n'a pas le temps de faire un parallèle entre la situation des deux usines sidérurgiques de Firminy et Unieux, d'un côté donc Verdier et de l'autre côté Holzer, qui sont dirigées par des directions complètement différentes, paternalisme relativement bienveillant d'un côté et direction de combat de l'autre, ce qui se ressent d'ailleurs sur la vie syndicale. Mais je passe. Alors, donc, qui étaient ces 6 qui sont pris dans cette affaire du 1er mai? Ce qui m'a interpellé un peu, c'est que dans toutes les déclarations que l'on peut lire dans cette période, au courant du mois de mai, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient des autorités, plus personne ne reparle du sort de ces ouvriers, donc, qui sont repartis au puits dans leur... dans leur unité d'origine.
Eh bien, nous noterons le côté particulièrement intéressant de ce passage de l'intervention de Daniel Durand, puisqu'il nous montre un certain nombre de choses qui sont révélatrices de ce qui se passe dans la Loire dans cette fin de l'année 1917 et ce début de l'année 1918, ici plus précisément le mois de mai 1918. Le premier point, c'est la détermination des ouvriers à faire marquer le 1er mai, et y compris en cessant de participer à la coulée. Alors, comme l'a signalé Daniel Durand, ces ouvriers ont quand même prévenu qu'ils ne viendraient pas travailler. C'est le contremaître qui donne l'ordre de charger quand même, et du coup, comme il n'y a personne au moment où il faut traiter la coulée, eh bien celle-ci sera perdue. On accuse donc ces ouvriers de sabotage, ce qui est un phénomène aggravant. D'une part, ils font grève, d'autre part, ils sont accusés de sabotage. Ce sont des ouvriers mobilisée. La photographie que la société d'archives, la société d'histoire de Firminy a donnée à Daniel Durand, cette photographie des 6 accusés nous les montre en uniforme militaire. Ils sont mobilisés dans les usines. Ce sont des requis. Et donc, en faisant grève, et pis encore en étant accusé de sabotage, il risque le conseil de guerre. C'est bien ce que Daniel Durand a voulu nous faire comprendre. Je crois que le deuxième point intéressant, c'est aussi de voir les contradictions qui règnent entre les militaires d'une part et le patronat d'autre part. Les militaires sont très au fait, comme nous l'a rappelé la chanson de Craon, du climat qui règne dans les tranchées, de lassitude qui gagne de plus en plus les combattants, surtout après la fameuse offensive du Chemin des Dames de 1917, offensive totalement inutile, mais par contre très meurtrière. Du climat donc de lassitude, voire même de révolte, on a des cas de mutinerie dans certaines unités. Climat alimenté par ce que l'on sait, de façon plus ou moins claire, mais on a quand même des informations qui circulent, de ce qui se passe en Russie, où ce même climat a débouché sur une véritable révolution. Les militaires sont donc très au fait de cette situation, de cet état d'esprit, et ont été rendus prudents par ce qui s'est passé dans le bassin stéphanois, déjà à la fin de l'année 1917, lorsqu'une grève spontanée et généralisée a obligé l'état-major à renoncer à la décision qu'il avait prise, c'est-à-dire d'envoyer Andrieux, le leader syndicaliste d'origine parisienne mais installé à Firmy depuis quelque temps, a renvoyé donc Andrieux du fait de sa participation et de son rôle de leader, à l'envoyer au front. Donc les militaires sont au courant. Par contre, on a un patronat qui, semble-t-il, n'a pas compris grand-chose à ce qui se passait dans la région et qui continue, notamment pour une des deux usines, qui continue à vouloir attendre surtout de la guerre qu'elle lui rapporte le maximum de profit. Et donc, entre patronat et militaire, les choses ne sont pas très très claires, ce que montrent les différents rapports de police que signale Daniel Durand. Cela étant, son souci, c'était de retracer le parcours de vie de ses ouvriers. Et il nous dit qu'il s'est heurté à de nombreux obstacles dans des documents d'archives, les différents rapports de police, dans tous les travaux d'historiens, nulle part, dit-il, ne figurent les noms de ces 6 hommes menacés d'être envoyés au front et de passer au conseil de guerre, ni d'ailleurs au sujet de leur risque d'être licenciés directement. C'est donc une patiente recherche qu'il va mener en exploitant les moindres indices fournis par les quelques documents desquels il est parti, notamment cette photographie, notamment avec toute une mention qui est à l'arrière de la photographie où les noms apparaissaient, notamment aussi avec les informations qu'il a retirées de ce qu'il appelle à juste titre la mémoire familiale, et enfin en s'appuyant sur les registres de matricule et en recoupant ces informations par une enquête généalogique pour chacun des protagonistes. Alors nous n'avons pas le temps de reprendre tous les cas, mais nous allons étudier. Nous allons lui donner la parole pour qu'il nous permette de retracer le parcours de deux d'entre eux, Ferdinand Marais dit Jean et Jean-Marie Coutançon.
Donc Marais Ferdinand, donc lui est identifié avec certitude, hein, puisque c'est lui le grand-père de ma femme. Donc en 1918, il a 33 ans, il est originaire de Bassan-Bassé, il est venu travailler chez Verdier avant la guerre, il s'est marié en 1912. Il a été détaché chez Verdier le 18 juillet 1915, hein, comme les trois quarts des ouvriers détachés dans les entreprises, avec une régularisation après août lors de la loi qui a été citée ce matin. Donc, on voit sur son registre militaire qu'il a été renvoyé au 86e RI le 9 mai et envoyé ensuite au 92e RI, au 92e RI à Clermont-Ferrand. Il est noté sur son registre, donc mis à la disposition du ministère de l'Armement jusqu'à fin d'enquête, passé au 92e, entre parenthèses, subsistance. Ça veut dire qu'il est envoyé au 92e, mis aux arrêts, mais qu'au niveau... il est donc nourri, en somme, pris en charge matériellement par le 92e, mais il reste, disons que, administrativement rattaché au 86e. Alors, après la guerre, je n'ai pas toutes les informations sur est-ce qu'il est repris chez Verdi ou pas. Ce que je sais, c'est 4 ans après, en 1923, donc il quitte Firminy, il va s'établir comme cultivateur à Bassan-Bassé, dans une ferme que possédait son père. Alors, selon la mémoire familiale, dans l'entre-deux-guerres, il est quand même toujours dans le collimateur des autorités, puisque les gendarmes de base viennent régulièrement le chercher, à chaque passage d'officier dans la région, pour lui faire passer la journée à la gendarmerie, c'est l'époque de la détention administrative, bien qu'il n'ait pas eu d'activité publique au cours de cette époque. Le deuxième homme, donc... identifié avec certitude, c'est Coutançon Jean-Marie. Pourquoi il est identifié? Parce que c'est le beau-frère de Ferdinand Barret, donc pas de problème. Donc, sur la photo, même chose, il est âgé de 29 ans en 1918, il habite Firminy depuis 1913 où il est marié. Sur son registre matricule, il est indiqué métallurgiste puis boiseur, ce qui veut dire qu'il avait dû travailler donc dans une entreprise de la métallurgie et avant la guerre travailler aux mines. Il a été lui aussi détaché chez Verdier le 27 octobre 1914, plus tôt parce qu'il a été blessé lors des premières attaques du mois d'août. Il a reçu un coup de baïonnette dans le mollet. Par contre, il n'y a pas sur son livret, sur son registre, d'indication comme sur celui de Marais qu'il a été transféré au 86e et envoyé ensuite au 92e. Il y a juste une mention qui est un indice, c'est que dans la rubrique des campagnes, il y a une mention qui est barrée. Intérieur, c'est-à-dire donc non aux armées, du 9 mai au 28 décembre 1918. Ça a été barré, mais pourquoi le 9 mai? C'est bien la date auquel ils ont été renvoyés. Voilà.
Alors, à travers ces deux exemples, Daniel Durand nous a montré ce que pouvait être la situation d'ouvriers qui, mêlés à un conflit social comme il commence à y en avoir d'importants dans la première moitié de l'année 1918, se retrouvent dans la situation où les autorités militaires vont leur chercher, si on peut dire, des ennuis. Si on prend le cas de Marais Ferdinand, on voit qu'il va donc être renvoyé, c'est le risque que couraient ces ouvriers, renvoyé au front, renvoyé dans le régiment d'origine, et puis la démobilisation qui intervient tardivement, le 28 mars 1919, alors même qu'il est depuis quelque temps père d'une petite fille. Ce que nous montre aussi Daniel Durand, c'est la richesse de cette source qu'il a utilisée, à savoir les registres de matricule, qui sont donc des dossiers reliés qui comprennent les fiches que l'autorité militaire remplit sur chaque soldat à partir du moment où il a passer le conseil de révision. Alors qu'on y trouve des informations d'état civil, bien sûr, on y trouve des informations d'état physique, hein, la taille, le poids, la couleur des yeux, ainsi de suite, éventuellement les malformations. Et on y trouve aussi tout le parcours militaire, depuis le service militaire jusqu'en cas de campagne, les différentes campagnes auxquelles ils ont pu participer. On y trouve aussi, enfin, les professions. C'est ce qui a permis à Daniel Durand de retracer ce parcours. Car en effet, tant que vous êtes sous le coup de l'obligation militaire, vous devez renseigner les autorités sur ce que vous faites et sur les endroits où vous habitez. Donc une source pour nous tout à fait intéressante. Donc pour ce qui concerne les autres, eh bien, je vous inviterai à consulter les actes de ces journées des 4e rencontres d'histoire ouvrière que nous avons tenues au mois de janvier dernier, puisque ces actes, nous sommes en train d'en préparer la publication grâce à une subvention qui nous a été accordée par la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et grâce aussi à l'entreprise de publication des actes graphiques et à son directeur Benoît Aubin. Cette entreprise d'ailleurs a commencé avec cette collaboration avec nous par la publication du livre de Maurice Bedouin, donc, qui s'intitule 1948, la grève des mines des mineurs stéphanois, une histoire en partage. C'est un ouvrage qui, il faut dire d'abord, s'inscrit dans la généalogie d'un ouvrage précédent qui est l'ouvrage fondateur du Grémos, à savoir la grève des mineurs stéphanois à travers les photographies de Léon Leponce que nous avions publié en 2011 aux presses de l'Université de Saint-Étienne avec Maurice et Jean-Claude Monneret, Corinne Bedouin et moi-même. D'autres, cet ouvrage de Maurice, c'est un ouvrage qui s'intéresse à la grève en descendant, si je puis dire, à l'échelle des communes. Il y a un portrait de chacune des communes ouvrières, depuis Firminy jusqu'à la Taloudière, en passant par Saint-Étienne et Saint-Chamond. Il y a aussi toute une étude des différentes catégories non mineures, d'où ce sous-titre de la deuxième partie, la grève des autres. Les catégories non mineures, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé en particulier à la vision qu'ont pu avoir les ingénieurs, à la vision qu'ont pu avoir les femmes aussi, les immigrés, voire l'Église catholique. Cet ouvrage, donc, il va le présenter demain soir, à la librairie L'une et l'autre, et je vous invite bien sûr à venir participer à cette présentation. Nous serions très heureux de vous accueillir. Voilà, je pense que nous avons terminé avec cette émission. Deuxième retour sur les 4e rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne. Et nous poursuivrons cette présentation de ces rencontres au mois d'octobre prochain.
Petit rappel, donc vendredi 16, cette rencontre avec Maurice Bedouin à L'une et l'autre, 19 rue Pierre Bérard. Et les réservations sont conseillées au 04 77 32 58 49.